Nous sommes aujourd'hui à la fin d'une série de messages sur les petits prophètes. Petits, mais vous avez appris une chose au moins. Et c'est le prophète Zacharie, Ancien Testament, un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Seigneur, nous prions que cette parole écrite, cette parole prêchée puisse devenir en nous une parole vivante. Amen. Un homme regardait autour de lui. Il se trouvait dans une sorte de chantier. Il y avait les fondations d'un assez grand bâtiment, mais pas grand-chose de plus. En effet, depuis plus de 10 ans, personne n'a posé une pierre ou fait des travaux sur ces fondations. Ils avaient d'autres intérêts. Nous sommes à Jérusalem, 6e siècle avant Jésus-Christ. L'homme s'appelait Zorobabel, c'est un nom pas très courant aujourd'hui. Et le chantier, c'est le lieu où autrefois le roi Salomon avait construit le temple de Dieu, un des bâtiments les plus magnifiques de l'Ancien Monde. Ce temple avait été complètement rasé par les Babyloniens et le peuple d'Israël emmené en captivité. Une génération plus tard, le peuple avait obtenu le droit d'y retourner. Ceux qui l'ont fait sont revenus avec une vision. Encouragés par les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, ils voulaient rebâtir le temple. Et Zorobabel était parmi eux. Le souverain sacrificateur, José, aussi. Zorobabel avait le sang royal dans ses veines. Descendant du roi David, il est devenu gouverneur de Jérusalem. Il se rappelait bien le jour de l'inauguration du chantier, le commencement de cette construction du nouveau temple. Mais depuis, il y a eu l'opposition des peuples voisins, les difficultés économiques, un enthousiasme de courte durée du peuple. Bref, le projet n'est plus avancé. Ce que Zorobabel et Josué pensaient ce jour-là, nous ne savons pas. Toujours tentant de la part du prédicateur de dire ce qu'il pensait, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Découragé, peut-être. Un sentiment d'incapacité à faire avancer le projet, je pense. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui avait un grand intérêt dans ce projet. Dieu lui-même. C'est lui qui était à l'origine. Il avait et il a toujours la réputation de terminer ce qu'il a commencé. Bonne nouvelle, hein? Donc il a envoyé 2 prophètes, Agé et Zacharie, pour motiver et encourager le peuple à finir la construction du temple. Les prophéties d'Agé sont très très pratiques. Les prophéties de Zacharie sont très profondes. Dans une série de 10 visions nocturnes, Dieu encourage en particulier Zorobabel et Josué. Mais il va beaucoup plus loin. Dans ses visions nocturnes de Zacharie, le prophète voit que leur situation actuelle fait partie d'un plan beaucoup plus vaste qui trouve son accomplissement dans la venue d'un Messie, un Sauveur, Jésus lui-même. Impossible de traiter tout le livre de Zacharie ce matin. Et donc, j'ai choisi juste une de ces visions nocturnes, celui du chapitre 4 du livre. Je pense qu'elle est pertinente pour notre situation actuelle en tant qu'Église. Nous commençons à réfléchir sur un projet de 5 ans. Comment mieux servir notre Dieu? Comment mieux servir notre communauté? C'est différent de la situation de Zorobabel, parce qu'on n'avait pas été inactif pendant les derniers 10 ans, 20 ans. C'est bien, une église bien active. Mais j'ai trouvé en Zacharie chapitre 4 des principes qui sont aussi valables aujourd'hui pour l'église d'Ozoir qu'il y a 26 siècles à Jérusalem. Circonstances différentes, mais j'ai trouvé 5 principes qui ont la même valeur aujourd'hui que le jour où Zacharie a eu cette vision, a écrit la prophétie. Donc nous allons lire Zacharie chapitre 4, qui va se projeter derrière moi en principe. Et je lis la version Bible du Semeur. Donc un ange réveille Zacharie en plein milieu de la nuit, pour la quatrième fois, et il y a 6 visions après, donc c'était une soirée bien agitée pour le prophète. L'ange qui me parlait revint à me réveiller comme un homme qu'on tirait de son sommeil. Il me demanda, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnais l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est mon esprit, le Seigneur des armées célestes, le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai, que représente ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier? Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai, que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or d'où découle l'eau dorée? Il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qui représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Qu'est-ce qu'il a vu, Zacharie? Un chandelier en or surmonté de 7 lampes. Le chandelier était alimenté d'huile par un réservoir d'huile qui lui-même était alimenté directement par 2 oliviers. Ça me fait penser à nous quand on va en vacances. Rosemary a tout un système pour nourrir les plantes dans la maison. Et donc, quand on part en vacances, il y a les plantes là, il y a les bouteilles d'eau, il y a les fils à droite et à gauche. Je ne sais pas si ça marche ou non. Mais en tout cas, dans cette image du chandelier, il y avait ce chandelier qui était nourri, qui était alimenté par un réservoir, qui était alimenté par des oliviers. Quand il a vu cette vision, Zacharie, il comprend rien. Et nous non plus. Mais heureusement, l'ange a expliqué, comme tout bon prédicateur, a expliqué la signification et l'application de cette vision qu'il a eue. Et donc, en comptant avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de faire la même chose aujourd'hui. Donc, on y go. Cinq encouragements pour Zorobabel et pour nous. La première chose qu'il a vue, c'est le chandelier. Il y avait un chandelier avec sept lampes dans le tabernacle construit par Moïse et dans le temple qu'a bâti Salomon. Donc, dès le début de l'adoration de Dieu par le peuple d'Israël, il y avait un chandelier dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Le chandelier représentait le service et le témoignage du peuple de Dieu. Dieu a toujours voulu que son peuple soit une lumière aux nations, un moyen de montrer sa gloire dans le monde. Et donc là, il y avait un encouragement pour Zorobabel. Le plan de Dieu n'avait pas changé. Le symbole qui était là dans le tabernacle, qui était là dans le temple, toujours là. Le plan de Dieu n'avait pas changé. Malgré leur indifférence, malgré leur inactivité, malgré l'opposition, le plan de Dieu était toujours là. C'est comme si Dieu disait à Zorobabel, Zorobabel, tu n'as pas vu beaucoup de progrès dans ce chantier, mais sois rassuré, je reste fidèle à mon plan. Je reste fidèle à mon peuple. Il y a un encouragement pour nous, là, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit, surprenant, à ses disciples, 12 hommes tout à fait ordinaires, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est notre rôle en tant qu'Église. Que par nos cultes, que par nos activités, que par notre témoignage, nous soyons une lumière, un signe que Dieu est présent dans ce monde, une manifestation de sa gloire. On va revenir à ça plus tard. Et là, le premier principe qu'on tire de cette vision de Zacharie pour nous, premier principe, c'est ça. Faire connaître Dieu, ça c'est notre rôle. Et donc tout projet qu'on a, ça c'est le but. Faire connaître Dieu, c'est notre rôle. Deuxième encouragement, deuxième chose que Zacharie a vu, c'était le réservoir. Qu'est-ce qu'il y avait dans le réservoir? L'huile d'olive. Et l'huile, ça représente quoi dans la Bible? C'est souvent le Saint-Esprit, c'est un signe du Saint-Esprit. La différence entre ce chandelier que Zacharie a vu et les autres, c'était dans la vision, le réservoir était alimenté éternellement par deux oliviers. À l'époque, le Saint-Esprit, à l'époque de Zacharie, le Saint-Esprit était pour certaines personnes en particulier, les prêtres, les rois, les prophètes. Mais la vision offre la promesse d'une sorte d'abondance du Saint-Esprit pour le peuple de Dieu. Une abondance qui s'est réalisée dans le jour de la Pentecôte, dans le Nouveau Testament. Et donc, C'était un encouragement pour Zorobabel. On a cette promesse extraordinaire que Dieu lui donne. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. C'est un encouragement pour Zorobabel. C'est pas par sa propre force qu'il allait accomplir le projet, mais par le Saint-Esprit. Et c'est un encouragement pour nous, n'est-ce pas? Jésus a dit à ses disciples, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde, en soi y compris. » Jésus n'a pas dit ça, mais on est inclus dans tout le monde. Je pense à une citation de William Booth, le fondateur de l'armée de salut. La fille de Booth avait passé une journée à Londres, dans le 19e siècle, en faisant l'évangélisation, en témoignant de Jésus. Elle est rentrée à la maison et Booth lui a posé une question. Il a dit, mais comment ça s'est passé aujourd'hui? Elle a dit, j'ai fait mon mieux. Et Booth a dit, c'est pas suffisant. Et on pense, premièrement, c'est un découragement, mais non. C'est un rappel que notre mieux n'est pas suffisant. Si on veut accomplir le travail de Dieu, on a besoin de Saint-Esprit. On a besoin de Saint-Esprit. Même l'homme le plus doué a besoin du Saint-Esprit pour accomplir le travail de Dieu. Et notre projet en tant qu'Église, je dirais que ce n'est pas forcément ce qu'on fait qui est important, mais c'est comment c'est fait. Sommes-nous dépendants du Saint-Esprit dès le début? Je cite toujours Charles Spurgeon quand je prêche. Vous pouvez me pardonner. Il a toujours des choses intéressantes à dire. Spurgeon a dit une fois que quand on a un projet, on pense ouais, on a besoin de conseil d'église renouvelé, des gens pour s'occuper des jeunes, l'argent dans la banque, etc. Il a dit non. La première chose qu'on a besoin dans un projet d'église, c'est le Saint-Esprit. Si on a besoin de plus de choses, c'est plus du Saint-Esprit. Ça commence là. La bonne nouvelle, c'est dans la vision de Zacharie, il a vu que le Saint-Esprit est inépuisable. Inépuisable. Vous êtes avec moi. Deuxième principe. Si nous faisons rien, Dieu ne fera rien. Mais si nous faisons quelque chose en comptant sur le Saint-Esprit, Dieu fera quelque chose. Dieu fera des miracles. Je me rappelle, Chris Short m'a dit une fois que c'est quand on se lance dans un projet, on n'a jamais tout ce qu'il faut au début, mais c'est là où on voit les miracles. Dieu agit, il fait des miracles. Et si vous voulez passer un après-midi très intéressant, vous demandez à Christian Bauger de vous expliquer comment le bâtiment qui est là aujourd'hui existe. Et là, c'est une histoire pleine de miracles de la part de Dieu. Si nous faisons rien, Dieu ne fera rien. Mais si nous faisons quelque chose en comptant sur le Saint-Esprit, Dieu fera quelque chose. Troisième chose que Zacharie a vue, c'était une montagne. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Dans la prophétie. La montagne représentait quoi? Une montagne de difficultés, de l'opposition, des découragements. Peut-être littéralement, c'était la montagne des décombres de l'Ancien Testament qui était là, un rappel des échecs dans le passé, quoi. Ah, on a essayé ça, mais ça n'a pas marché. C'est un encouragement pour Zorobabel. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Dieu s'occupe des problèmes avec un seul mot en hébreu. Cette expression, tu seras transformé en plaine, c'est un seul mot en hébreu. Dieu peut s'occuper de tous nos problèmes avec un seul mot. Il est tellement puissant. Moi, je trouve ça, c'est un grand encouragement. Dieu n'a pas besoin de faire tout un plan. Un seul mot, c'est suffisant pour résoudre nos problèmes et nos difficultés. Un encouragement pour Zorobabel. Dieu s'occupe des problèmes avec un seul mot. Peut-être les problèmes sont grands, mais quelqu'un a dit que pour Dieu, tout est petit. Pour celui qui a tout créé, qu'est-ce que c'est un grand problème? C'est rien par rapport à tout ce qu'il a déjà fait dans la création du monde. Pour Dieu, tout est petit. Mais quelle motivation pour Zorobabel? Et quelle motivation pour nous aussi? Dans un projet, les problèmes, il y en aura. Ça, c'est sûr. Mais Dieu pourvoira. C'est son nom. Hein? Dieu a choisi comme nom le Dieu qui pourvoira. Et il ne va pas nous décevoir. Jésus a souligné la même chose avec une illustration graphique, avec peut-être une petite exagération pour renforcer ce qu'il dit. Il dit, ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Belle promesse pour une église avec un projet. Devant Jésus, la montagne des difficultés sera transformée en plaine. Troisième principe, dans un projet, les difficultés sont inévitables, mais Dieu pourvoira. Quatrième chose que Zacharie a vue, les petites choses. Verset 10, qui donc méprisait le temps des petites choses? Quel encouragement pour Zorobabel. C'est sûr que lui, il était tenté de faire la comparaison entre lui, gouverneur de Jérusalem, et son ancêtre, le grand roi David, qui a conquéré tout le territoire, tous ses ennemis, etc. C'est sûr que Zorobabel était tenté de comparer le temple qui était chargé de reconstruire avec le grand temple, un des merveilles du monde, construit par son ancêtre Salomon. Mais Dieu dit, qui donc méprisait le temps des petites choses? Ce n'est pas important si c'est grand ou petit. L'important, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu commence toujours avec des petites graines, avec des petites choses. C'est un encouragement pour nous. Je dis que nous sommes appelés à être une manifestation de la gloire de Dieu. Mais souvent, quand on entend ça, on pense à quelque chose de grandiose. Mais non. Le travail de Dieu commence toujours avec les petites graines. Quand je pense à mon propre expérience, comment est-ce que je suis devenu chrétien, Il y a trois ou quatre personnes qui ont fait des petites choses pour moi, qui s'occupaient de deux, trois minutes de leur vie. Mais le résultat en moi, c'était la vie éternelle. Quelqu'un m'avait vendu un livre chrétien qui expliquait la voie du salut. Quelqu'un m'a donné une Bible, quelqu'un a prié pour moi, quelqu'un m'a accueilli chaleureusement dans une église un jour. Quatre petites choses, mais le résultat à la fin, c'était la vie nouvelle en moi. Je suis venu à Jésus-Christ par les petites choses-là. Il ne faut pas mépriser les petites choses. Il ne faut pas penser, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les petites choses. Mais avec la vie de Dieu dedans, comme une semence. C'est un encouragement. À une certaine période dans ma vie, j'ai gardé un journal, j'ai écrit chaque jour, le matin, je réfléchissais sur ce qui s'est passé le jour avant et essayais de voir ce que Dieu m'avait essayé de communiquer pendant le jour avant. Et quasiment chaque jour, j'ai trouvé quelque chose, et souvent les petites choses, mais ça reste dans ma tête, ces encouragements que j'ai reçu là. J'ai l'impression que Dieu est toujours en train de semer les petites choses. Et c'est à nous de discerner quelles sont les petites choses là. Réfléchissez, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Hier, aujourd'hui. Parfois, c'était juste les petits encouragements. Mais ça, si c'est la vie de Dieu est dedans, ça grandit. C'est comme une semence. Quel encouragement pour nous. Dieu est toujours en train de semer. Jésus a dit à la fin du parabole du semeur, « Celui qui écoute la parole et la comprend porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 30, chez un autre 60, chez un autre 100. » Donc, notre projet d'église commence avec une petite annonce de la part de Manu. Mais si Dieu est dedans, il y aura du fruit. Quatrième principe, le travail de Dieu commence toujours avec les petites choses, avec les petites graines. Refléter la gloire de Dieu n'est pas quelque chose de grandiose, mais plutôt une question de petites choses qui portent du fruit. Je pense à un couple de missionnaires qui sont venus à l'église de... C'était l'église de Vierzon, oui, de Vierzon. Et à la fin, ils ont raconté tout ce qu'ils ont fait au Brésil. Et c'était vraiment un ministère rempli de miracles, rempli de grandes choses que Dieu avait fait. Et à la fin, une femme est allée voir l'épouse dans le couple de missionnaires. Et elle a dit, mais vous avez fait énormément de choses. Et moi, tout ce que je fais, c'est, ma foi est tellement petite. Et Jackie Emmons, la missionnaire, a dit, mais ça c'est super. Elle a dit, si votre foi est petite, ça laisse beaucoup d'espace pour la croissance. N'est-ce pas? Cinquième et dernier principe. Ce que Zorobabel a vu, la pierre principale. On trouve ça en verset 7. Est-ce que tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine, il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. C'est un encouragement pour Zorobabel. Il avait la promesse de la pierre principale du nouveau temple, la pierre maîtresse de l'édifice qui devait soutenir tout le bâtiment. C'était une sorte de garantie que le bâtiment allait rester debout. Et nous, en parlant de sa mort et sa résurrection, Jésus a cité le psaume 118. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est Jésus, la pierre principale. Le temple que Dieu construit aujourd'hui n'est pas un bâtiment, mais une communauté. Nous sommes comme des pierres vivantes qui construisent notre vie en communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité et vivant pour toujours. Et donc, le cinquième principe, c'est tout projet de Dieu repose toujours sur Jésus. Lorsqu'il y a des conflits dans le cours d'un projet, revenons à Jésus. Je pense à mon fils Andrew, qui, le premier travail qu'il a eu quand il a terminé ses études, c'était en Azerbaïdjan. Il travaille pour une société d'exploitation de pétrole. Et c'était un grand projet. Le budget était plus grand que le budget de tout le pays d'Azerbaïdjan. Et donc, à un certain moment, il y avait un conflit entre deux membres de l'équipe, deux membres importants de l'équipe. Et jusqu'au point qu'un des membres avait écrit sa lettre de démission, il voulait retourner en France. Et le chef de l'équipe a imploré ces deux hommes de se réconcilier pour le bien du projet. Et moi, je dirais que pour nous, en tant qu'Église, avec un projet, ce n'est pas le projet qui va nous tenir ensemble, mais c'est la prière principale. C'est Jésus. C'est Jésus. Celui, tout le poids du projet repose sur lui. C'est lui qui porte le projet sur ses épaules. Et nous pouvons compter sur lui. S'il y a des désaccords, s'il y a des problèmes dans les équipes, il faut aller à Jésus. Lui, il peut résoudre ça. C'est lui qui nous unit. Ce n'est pas le projet, c'est Jésus lui-même. La pierre vivante, la pierre principale, la pierre maîtresse dans tout projet de Dieu. Donc, je résume les cinq principes. Premier principe, faire connaître Dieu, ça c'est notre rôle. Deuxième principe, si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Mais si nous faisons quelque chose en comptant sur le Saint-Esprit, Dieu fera des miracles. Troisième principe, dans un projet, les difficultés sont inévitables, mais Dieu pourvoira. Quatrième principe, le travail de Dieu commence toujours avec les petites graines. Et le cinquième principe, tout projet de Dieu repose toujours sur Jésus. Mes amis, projet ou pas de projet, je vous encourage de fixer vos yeux sur Jésus. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui pardonne notre égoïsme, notre refus de Dieu. C'est lui qui nous donne son Saint-Esprit. C'est lui qui, par sa parole, nous invite, nous ordonne d'entrer dans son royaume. C'est lui qui nous a ouvert le chemin de la foi. Gardons nos yeux fixés sur lui. Jésus, la lumière du monde, nous appelle à son service. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit. Il est plus grand que nos difficultés. Il nous encourage à valoriser les petites choses qu'il fait dans notre vie. Ses œuvres commence toujours avec des petites graines. À lui soit la gloire. Amen.